France Musique.
Jusqu'au 11 juillet, France Musique vous invite au Festival d'Aix-en-Provence. Le bonheur d'y découvrir en direct de belles soirées d'opéra. De grands classiques, Les Noces de Figaro de Mozart sous la direction de Thomas Engelbrock, Tristan et Isolde de Wagner avec Simon Rattle à la baguette, des créations mondiales, Innocence de Kaya Saariao dirigée par Susanna Melki. Et deux rendez-vous en journée, Musique Matin, l'agenda de l'été, à podcaster sur l'appli Radio France.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour à vous toutes et tous. En route pour de nouvelles balades musicales et joyeuses, France Musique a mis son habit de lumière pour entrer dans l'été et vous promet de belles surprises. Dans un instant et jusqu'à 9h, premier rendez-vous d'été avec Clément Rochefort et son Musique Matin.
Merci Coco. Bonjour à tous, bienvenue sur France Musique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver de bon matin sur France Musique. Désormais, tous les jours de la semaine, tout au long du mois de juillet, j'aurai le plaisir de vous réveiller en douceur, en musique et dans la bonne humeur au rythme des festivals de l'été qui reprennent dans l'enthousiasme général avec un été 2020, après un été 2020 quasi silencieux. Ce matin d'ailleurs, comme demain, nous sommes chaleureusement accueillis par nos confrères de France Bleu Provence qui nous ouvre les portes de son studio sous le soleil à quelques pas du Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence. Tous les jours, on se réveillera donc tranquille, en mode vacances, avec quelques rendez-vous immuables. À 7h40, les infos. À 7h50, le jeu de l'été avec plein de CD à gagner. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals, qui nous emmènera ce matin à Bordeaux, au Festival Pulsation. À 8h25, l'été des Frères Jacques. Après le swing il y a deux ans, Charles Trenet l'été dernier, cet été, je vous ferai redécouvrir quelques chansons géniales et parfois rares de ce mythique quatuor vocal de la chanson française. Et puis à 8h30, nous recevrons nos invités du jour. Aujourd'hui, Sébastien Dossé, le chef de l'ensemble Correspondance, et le baryton Stéphane Degout qui chante dans Falstaff, ici au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Mais d'abord, le plus important, c'est que l'école est finie. C'est l'heure des vacances. Que vous les passiez à la plage, à la montagne, chez vous, au travail, à l'étranger, peu importe. Nous, on va vous emmener en vacances sur les ondes de France Musique, car les meilleures vacances sont encore celles de l'imagination et de l'esprit qui s'évade. Allez, on sort de l'école et on se lève du bon pied. Bienvenue à tous sur France Musique.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main tournant la manivelle d'un petit sous-marin plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. Lui le garde barrière, il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer.
Alors on est revenu à pied, à pied.
Yeah.
pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
En sortant de l'école, une chanson de Jacques Prévert sur la musique de Joseph Cosma, interprétée par les frères Jacques. Les frères Jacques qui nous accompagneront donc tout au long de l'été. L'été qui va être très très riche sur France Musique, puisque France Musique va commémorer avec vous quelques grands anniversaires. À commencer par celui d'Igor Stravinsky, mort il y a 50 ans, 1971. Compositeur majeur qui, avec le Sacre du Printemps, a donné une impulsion nouvelle à la musique. Alors tous les dimanches, à 11h, dans Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza vous parlera de ses rencontres avec tous les grands personnages de son temps, de Rubinstein à Kennedy, de Chaplin à Picasso. Il vous racontera la vie incroyable de celui qui reste tout simplement le compositeur le plus emblématique du XXe siècle. Premier épisode, dimanche prochain, donc, de L'Enfant à l'Oiseau, 1882-1910.
Thank you.
Feu d'artifice d'Igor Stravinsky, interprété par l'Orchestre symphonique de Chicago sous la baguette de Pierre Boulez, une des œuvres qui sera donc au programme du premier épisode de la grande série de Lionel Esparza cet été sur France Musique. Igor Stravinsky, chronique de sa vie, nouveau rendez-vous à suivre jusqu'à la fin du mois d'août, tous les dimanches à 11h.
France Musique.
Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h40, c'est l'heure des news. Et côté actu, autant vous dire que toute la presse est là à Aix-en-Provence, the place to be pour les mélomanes début juillet. Alors dans l'édition du Monde d'aujourd'hui, Mario Drou nous fait vivre les premières de Falstaff, de Verdi et du Combattimento, la théorie du signe noir, de l'ensemble correspondance, saluant notamment notre invité du jour, Stéphane Degout, qui, je cite, campe un Ford qui en a sous le capot, une projection puissante, une autorité et une noirceur inquiétante, comme dans ce sosie de mafieux ou de tueur à gage tiré à quatre épingles. Mario Drou qui semble conquise par cette bouffonnerie qui invitait les spectateurs non à tourner la page de la pandémie qui fige le monde depuis plus de 18 mois, mais à vivre sans délai. Idem dans le Figaro, Christian Merlin salue lui aussi la nouvelle production de Falstaff, dont il a apprécié la mise en scène énergique et savoureuse, et en particulier l'art vocal de Stéphane Degout, encore lui, Ford tout simplement parfait, je cite, sans que l'on sache qu'admirer le plus entre la beauté du timbre, la perfection du chant et l'équilibre idéal entre musique et texte. Toujours à Aix-en-Provence, à lire dans la version en ligne du Monde, un entretien avec la compositrice Kaya Sarriao, dont la création de Innocence, son cinquième opéra, a reçu samedi soir une standing ovation, comme Philippe Jordan, qui lui aussi a eu une très très longue standing ovation vendredi soir à Paris, à l'issue du concert d'adieu de son orchestre de l'Opéra National de Paris. Standing ovation scandé de merci Philippe, inoubliable selon Marcel Quiléveré sur Forum Opéra. Un concert à réécouter pendant un mois sur francemusique.fr. Et pour finir, direction le 14e arrondissement de Paris, à la rencontre d'un métier peu banal, facteur de pianoforte. Louis-Valentin Lopez a poussé la porte de l'atelier de Philippe Joly. À 71 ans, il répare, entretient et fabrique des pianoforte et il s'inquiète pour l'avenir de sa profession.
L'atelier de Philippe Joly, c'est un peu la caverne d'Ali Baba des amateurs de piano. Nous sommes dans l'ancienne dépendance d'un garage.
On répare des pianos au lieu de réparer des chambres à air. Ça change un peu, quoi. Ça fait pas le même bruit.
Le facteur de pianoforte s'est installé ici il y a une quinzaine d'années. Il entretient, restaure, bichonne des pianos qui datent pour la plupart de l'avant-guerre, du début du siècle, voire du 19e. Il nous fait faire le tour du propriétaire.
Ici, il y a le piano, le Pleyel, qui était acheté Singer, l'éditeur de Chopin. Il est complètement faux, etc., parce qu'il est un peu à l'abandonné, mais il y a deux pianofortés que j'ai fabriqués, des pianos carrés, j'en ai un de 1780 et quelques dans vitrine, etc. J'ai un piano mécanique à étrier, ils n'ont même pas le même au musée de la musique.
Philippe Joly, particulièrement fier d'un piano girafe, un piano vertical qui trône dans l'entrée, une merveille qui revient tout juste du Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
On l'entend, il marche, mais là... J'ai commencé à accorder les basses, c'est une horreur.
Mais la fabrication n'est pas le cœur de son métier.
La construction, c'est une petite partie, malheureusement. C'est peut-être 10%, 5% de mon activité. J'aimerais mieux que ça soit 80%, mais j'ai pas de clients, donc je les ai loués quand même, mes pianofortés. Il y en a un qui a fait une cinquantaine de concerts dans un théâtre. Il jouait un opéra bouffe de Haydn qui s'appelle L'eau spéciale. Les Klavierstücke de Schubert aussi, le premier disque était vachement bien.
Le facteur gagne aussi sa vie grâce à l'accordage qui représente 20% de l'activité. À 71 ans, c'est le devenir de ses créations qui tracasse Philippe Joly.
Mes héritiers, moi, mon fils, il fait de l'astrophysique et c'est très bien, mais il s'intéresse pas spécialement au piano et ma fille non plus.
Heureusement, il peut compter sur deux collaborateurs qu'il appelle ses héritiers spirituels. Juste à côté, Shintaro est au chevet d'un pianoforte.
Alors là, je suis en train de régler les jeux sous le nez. C'est le moment où la touche commence à soulever la mécanique.
Ce que le jeune homme apprécie dans son métier, c'est la diversité.
On travaille le bois, le métal, il y a des aspects d'ébénisterie, de réglage de mécanique, accordage, harmonisation, tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de journée typique en fait.
Il est de plus en plus difficile de vendre des pianos, constate-t-il, mais le piano et le pianoforte ont quand même de beaux jours devant eux. notamment grâce au confinement.
Beaucoup de gens se sont mis au piano ou se sont remis au piano après parfois 20, 30, 40 ans. Il y a de l'intérêt quand même sur l'enregistrement, sur des pianos d'époque. Je pense que ça va quand même perdurer. Ouais.
Philippe Joly abonde.
J'ai des clients qui disent « Ah mais mon fils a progressé comme une fusée pendant cette période. Il a joué 4 heures par jour du piano alors que d'habitude il jouait à 10 minutes. »
Le facteur qui rêve maintenant de monter une maison du piano historique regrouper au même endroit des pianos de toutes les époques.
Un reportage de Louis Valentin Lopez à retrouver sur notre site internet francemusique.fr. Alors pour la petite histoire, on doit l'invention du pianoforte au tout début du XVIIIe siècle à un certain Bartolomeo Cristofori au service de la cour des Médicis à Florence. Bah oui, c'est encore les Italiens qui ont inventé le pianoforte. Voici d'ailleurs un extrait de l'une des toutes premières œuvres écrites pour l'instrument de Cristofori, c'est la sonate opus 1 numéro 1 en sol mineur de Lodovico Giustini, musicien de Pistoia, une sonate extraite de ce qu'il appelait ses sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti, c'est-à-dire sonate pour le clavecin avec piano et forte, c'est-à-dire avec les deux nuances, qu'on appelait vulgairement avec des petits marteaux. Les trois derniers mouvements, Sarabande, Gigue et Menuet de la sonate opus 1 numéro 1 en sol mineur de Lodovico Giustini, l'une des toutes premières écrites pour ce nouvel instrument du XVIIIe siècle, le pianoforte Cristofori, et interprété par l'un des spécialistes du genre, Eduardo Torbianelli. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h50, c'est l'heure du jeu. A gagné ce matin le disque neuf de l'accordéoniste Félicien Bru, un disque Mirare, publié en 2020 à l'occasion du 250e anniversaire de Beethoven, sur lequel il a demandé à 9 compositeurs actuels d'écrire des pièces inspirées par la musique du Beethoven. On y trouve des compositions originales de Thomas Enko, de Stéphane Delplace, de Domi Emorin, Corentin Apparaï, Fabien Waxman, Thibaut Perrine et j'en passe, interprétées par Félicien et sa formation désormais légendaire, le quatuor à cordes Hermès et le contrebassiste Édouard Macarez. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet « Contactez-nous » sur la page de l'émission francemusique.fr Musique Matin, en n'oubliant pas de nous indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question du jour. En France, laquelle de ces expressions ne désigne pas l'accordéon? Le piano à bretelles, le piano bastringue ou le piano du pauvre? En France, laquelle de ces expressions ne désigne pas l'accordéon? Est-ce que c'est le piano à bretelles, le piano bastringue ou le piano du pauvre? C'est à vous de jouer. Réponse dans une heure.
Thank you.
l'odieuse fugue de Stéphane Delplas d'après la musique de Beethoven, interprétée par Félicien Bru à l'accordéon, le quatuor Hermès et Édouard Macarez à la contrebasse. Et cet extrait de ce disque neuf de Félicien Bru qui est en jeu ce matin. Vous pouvez continuer à nous écrire. Tirage au sort tout à l'heure aux alentours de 8h50. Félicien Bru qu'on pourra retrouver en concert les 13 et 14 juillet aux Estivales de musique en Médoc.
France Musique vous accompagne tout l'été à 9h et 14h. Partez en balade à travers une programmation musicale riche, surprenante. Elle vous emmène de découverte en découverte. Laissez-vous aller, rêvez, guidez au rythme de Été Classique. Le matin et l'après-midi, à retrouver en podcast sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Merci d'être à l'écoute de France Musique. Il est presque 8h. On va faire un petit tour à Paris, quitter le soleil d'Aix-en-Provence pour les informations présentées ce matin par Marie-Hélène Duvigneault. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. Le débat sur la vaccination anti-Covid obligatoire des soignants plus que jamais sur la table. Le Premier ministre Jean Castex doit recevoir cette semaine les chefs de file du Parlement et des élus locaux pour aborder la question. Le vaccin, c'est une chance, pas une pénalité, a insisté hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran, mettant en garde contre une éventuelle nouvelle vague épidémique possible, selon lui, dès la fin du mois, notamment sous l'effet du variant Delta. Dans une tribune au Journal du Dimanche, 96 médecins, dont des chefs de service, ont demandé au gouvernement de prendre dès à présent cette décision d'obligation vaccinale pour les soignants. Une position qui ne fait pas l'unanimité, illustration au centre hospitalier du Mans, où pourtant 70% des 4500 salariés sont déjà vaccinés, Julien Jean.
Mais il reste donc 30% du personnel à vacciner, dont certains récalcitrants. Et s'il faut rendre la vaccination obligatoire, eh bien faisons-le, dit à titre personnel Marc Gandon, délégué FO au centre hospitalier du Mans.
Tout serait mieux que l'obligation. Maintenant, au final du final, après avoir épuisé toutes les autres solutions que les gens qui sont en position de décider, décident. Il en va aussi de l'avenir du fonctionnement de notre pays et même tout simplement du fonctionnement de l'hôpital public de demain. Parce qu'on ne pourra pas continuer à supporter ce qu'on supporte en ce moment, c'est pas possible.
Toutefois, il regrette que le gouvernement ne voit cela que sous l'angle de l'obligation et ne se pose pas la question du pourquoi certains refusent de se faire vacciner.
Le personnel soignant a bien sûr un esprit beaucoup plus critique et développé sur tout ce qui est médicamenteux parce que nous voyons les effets indésirables de tous les médicaments et bien sûr que nous sommes amenés à nous poser beaucoup plus de questions, ce qui peut expliquer la fébrilité et la décision de certaines personnes de se dire « moi, je ne prends aucun risque ».
Et il estime que ce qu'il faudrait surtout, c'est une information, je cite, « beaucoup plus poussée des personnels soignants pour évacuer les derniers doutes et les convaincre de se faire vacciner ».
Un an après l'annulation de l'édition 2020 pour cause de pandémie, Avignon redevient la capitale du théâtre grâce à l'ouverture aujourd'hui de son festival international, un festival qui, malgré des jauges à 100%, doit encore faire avec le Covid, centre de dépistage, distribution d'autotests, masques dans la rue, à la différence du reste de la France en raison de l'affluence. À l'extérieur, aération des salles de 40 minutes entre les créneaux des spectacles, la Cité des Papes va encore vivre au rythme des restrictions. Tenter de remobiliser les troupes après l'échec des élections régionales et départementales, Marine Le Pen, réélue sans surprise à la tête du Rassemblement national, a exhorté hier ses militants réunis en congrès à Perpignan à aller chercher la victoire à la présidentielle en réaffirmant ses choix, Antoine Marette.
Marine Le Pen veut oublier 2021 pour mieux penser à 2022. La candidate à la présidentielle s'adresse directement aux abstentionnistes. La parole du peuple ne peut s'éteindre par la renonciation, le fatalisme ou l'indifférence. Le gilet jaune qui s'abstient ne fait qu'un seul gagnant, Macron. Marine Le Pen concentre ses attaques sur le chef de l'État, anticipant un duel au second tour. à 9 mois du premier tour. Quant à sa ligne politique d'ouverture contestée par Jean-Marie Le Pen, elle répond « Nous ne reviendrons pas au Front National ». La leader du RN fait même une allusion à Éric Zemmour dont elle conteste, je cite, « la croyance dans la guerre civile ». Elle n'en fustige pas moins la dérégulation généralisée, la liquidation de l'État et l'abolition de la nation. Elle défend le nationalisme et le localisme qu'elle oppose au progressisme et au globalisme. Elle revendique d'être dans le camp de ceux, je cite, « qui sont de quelque part face à ceux qui sont de nulle part, voire ceux qui revendiquent d'être d'autre part ». Marine Le Pen a achevé ses 3/4 d'heure de discours par une confirmation. Elle quittera la présidence du parti en septembre. Elle sera remplacée par le nouveau premier vice-président du RN, Jordan Bardella.
Total Energy n'utilisera plus d'huile de palme en 2023, ni dans sa bioraffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, ni nulle part ailleurs. C'est ce qu'annonce le patron du groupe énergétique français, Patrick Pouyanné, dans un entretien publié aujourd'hui par le quotidien régional La Provence. 10 jours après l'effondrement d'un immeuble de 12 étages à Surfside, près de Miami, en Floride, les restes de l'édifice ont été démolis hier soir avant le passage de la tempête tropicale Elsa, attendue demain dans la région. Les recherches de victimes avaient été suspendu samedi pour préparer cette démolition alors que le bilan officiel de la catastrophe est de 24 morts et de 121 disparus. Le temps aujourd'hui pluvieux sur la moitié nord, ensoleillé au sud. Les températures 13 à 22 degrés ce matin. Cet après-midi, il fera de 17 à 19 en Bretagne, à 28 à 31 dans le sud-ouest, en vallée du Rhône et en PACA et même jusqu'à 32 à Ajaccio. France Musique, 18h05, l'habitude, 8h05, retour à Aix-en-Provence où nous attend Clément Rochefort.
Merci Marilyn Vigneault. Vous savez, il n'y a pas encore de décalage horaire entre Paris et Aix-en-Provence.
À vérifier.
Il est bien 8h05. En tout cas, je vous confirme que la température devrait avoisiner les 30 degrés ici aussi. On vous retrouve demain. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant sur France Musique à 8h05. C'est Musique Matin. On est ensemble jusqu'à 9h. À suivre le Tour de France des festivals à 8h10. On prendra la direction de Bordeaux et du festival Pulsation en compagnie de son directeur artistique Raphaël Pichon. Et puis à 8h25, notre nouvelle chronique de l'été. L'été des frères Jacques, avec la découverte de quelques belles chansons originales de ce quatuor vocal mythique. Et à 8h30, nos invités du jour, Sébastien Dossé, le chef de l'ensemble Correspondance, et le baryton Stéphane Degout. Thank you. Le final du concerto pour violon, cordes et basses continues en ut majeur, Riom 191, c'est la musique de Vivaldi, interprétée par la violoniste Patricia Kopaczynskaya, avec Il Giardino Armonico, dirigé par Giovanni Antonini, bah oui, parce que le festival d'Aix-en-Provence, où nous sommes depuis ce matin, en direct sur France Musique, ce sont bien sûr des opéras dont on parle très largement et qu'on pourra retrouver en direct tous les soirs de cette semaine, mais ce sont aussi des concerts de musique de chambre ou des concerts symphoniques comme ce soir à 21h30 avec donc la violoniste Patricia Kopaczynskaya dans un programme Poulenc, Schumann, Georges Enesco et Ravel. Ça se passe à l'hôtel Meynier d'Oppède ici à Aix-en-Provence. Elle y sera en duo avec Paulina Leschenko au piano.
Thank you.
Gesang aus Fingal, c'est la dernière ou dernier des Vier Gesang opus 17 pour voix de femme, deux corps et harpe de Johannes Brahms, interprété par l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon qui est en ligne avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Clément.
Raphaël Pichon qui organise pour la deuxième année consécutive le festival Pulsation à Bordeaux. Ça a commencé le 30 juin et ça se déroule jusqu'au 18 juillet en partenariat avec France Musique. Alors au départ, Raphaël, c'était un peu une réponse à l'urgence de la crise sanitaire l'été dernier. Et puis finalement, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un festival qui se pérennise?
Ben oui, je l'espère. Vous savez, la crise a légèrement duré, encore un peu plus longtemps malheureusement que ce que on espérait, et donc ce festival s'est un tout petit peu imposé de lui-même de continuer ce qu'il avait pu semer l'été dernier et d'exister encore cet été, et avec maintenant évidemment la volonté de le pérenniser, de déployer toute à Bordeaux et dans sa région le plus de musique possible.
Ah oui, alors c'est vraiment un festival qui investit littéralement plein d'endroits à Bordeaux, y compris des endroits un petit peu étonnants, la base sous-marine notamment, j'ai vu ça.
Oui, effectivement, l'idée c'est aussi de s'approprier des lieux parfois vierges de culture, mais surtout des lieux magiques, inspirants, aussi intéressants pour leur géographie, qui nous permettent d'aller un peu plus loin que l'hypercentre de Bordeaux. Et là, cette base sous-marine, effectivement, nous allons y donner un requiem allemand de Brahms, mis en espace par Jochen Sandisch et Sacha Waltz, et une expérience un peu déambulatoire, avec là l'idée de faire résonner un peu la mémoire de ce lieu qu'est cette base sous-marine, avec cette œuvre, le requiem allemand de Johannes Brahms. C'est provoqué des rencontres et une écoute assez inouïe, je pense.
Une version immersive du requiem allemand de Brahms. Donc ça, ce sera les 15, 16, 17 et 18 juillet. Est-ce qu'on peut citer quelques autres grands moments à venir dans le festival?
Oui, bien sûr. Alors la création d'un tout nouveau spectacle d'un artiste totalement inclassable et absolument génial qui est James Thierry, et qui crée les 6, 7 et 8 juillet là, et son nouveau spectacle. Il y a une sorte de concert de concert un peu expérimental, et qui s'appelle Mose. Et puis nous aurons aussi ce soir l'ensemble Grain de la Voix, avec un programme, une sorte de nuit tout Josquin des Prés. Le 11 juillet, un concert de Camille, un concert participatif de Camille, une expérience participative comme elle l'appelle, le Lala Live. Et puis beaucoup la compagnie La Tempête avait un très beau programme.
Ah oui,
programme,
attendez, Lala Live, ça veut dire qu'on peut venir chanter en même temps que la chanteuse sur des Lala, c'est ça en fait?
Exactement.
Ah ben c'est génial, moi qui connais jamais les paroles, je vais venir vous rejoindre. Pardon, je vous ai coupé pour dire des bêtises.
Non, je vous en prie. Il y a beaucoup de choses à découvrir, et puis il y a aussi tout un pan dédié à la jeune génération, une sorte d'académie tremplin pour la jeune génération, avec à la fois des jeunes chanteurs, des jeunes éclairagistes, des jeunes chefs, et qui seront notamment matérialisés par différentes soirées, mais notamment Un enfant et les sortilèges de Ravel, dirigé par Paul Daniel avec l'ONBA. Et ça qui aura lieu au milieu de la semaine prochaine.
L'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.
Exactement. Voilà, je vous recommande de découvrir toute la programmation sur le site du Festival Pulsation.
Voilà, et ça c'est les concerts. Alors vous avez trouvé un joli nom, d'ailleurs j'ai trouvé que c'était très mignon. Les Pigchoun, qui est la contraction de Pichoun et de Pygmalion. Voilà, c'est un très joli nom pour ces concerts jeunes publics. Une dernière question rapidement, Raphaël Pichon. L'ensemble Pygmalion justement, qui était déjà en résidence ces dernières années à l'Opéra de Bordeaux. Avec ce festival, c'est une manière de confirmer votre ancrage, l'ancrage de l'ensemble dans cette ville?
Bien sûr, oui. Enfin, en tout cas, c'est surtout important de lui donner un visage, de lui donner une expression. Et effectivement, autour de ces questions d'implantation territoriale, de résidence, il est très important de pouvoir y donner un peu un visage très concret. Et ce festival, parce que comme vous le disiez, effectivement, autour des Pigchoun, il y a ces grands concerts, ces grands formats qui ont lieu le soir, mais en fait, en journée, il y a entre 2 et 3 concerts qui ont lieu en milieu associatif, dans des hôpitaux, dans des centres d'accueil, dans des crèches, dans des écoles. Et avec l'aide d'ailleurs de tous les musiciens, c'est-à-dire que tous les musiciens de ce festival sont investis aussi dans cette mission. Et à l'issue de ces concerts, nous proposons au public touché dans ces lieux de venir gratuitement rejoindre les concerts du soir, avec voilà une sorte d'action un peu que nous cherchons à rendre très très concrète, de convaincre que ces musiques peuvent tous nous concerner, nous toucher. Et là aussi, avec cette dimension un peu géographique, d'aller chercher le public, le plus diversement possible.
De toute la région de Bordeaux. Merci, merci beaucoup Raphaël Pichon.
Merci à vous.
Vous nous l'avez dit, tout est sur le site internet du festival Pulsation. C'est jusqu'au 18 juillet à Bordeaux et dans la région, presque une saison entière sur quelques jours. Merci d'avoir été avec nous au téléphone ce matin et bon festival.
Merci beaucoup Clément. À bientôt.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Clément Rochefort, Musique Matin.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors tous les matins aux alentours de 8h20, on fera le point sur votre journée de concert sur France Musique avec aujourd'hui 3 concerts inédits, un récital du violoncelliste Victor-Julien Laferrière et du pianiste Guillaume Bellhomme. C'est à 16h, à 20h avant concert avec l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Michele Mariotti avec la pianiste Beatrice Rana dans un programme Mozart avec le concerto numéro 9 et la symphonie Jupiter, mais surtout à vivre en direct ici au Festival d'Aix-en-Provence à partir de 21h30 au Théâtre de l'Archevêché, la nouvelle production des Noces de Figaro de Mozart par le Balthazar Neumann Ensemble avec le chœur du CNRR de Marseille dirigé par Thomas Engelbrock avec une distribution de rêve, André Schwen dans Figaro, Julie Fuchs en Susanna, Gyula Orent dans le rôle du comte, Léa Desandré en Chérubin, Emiliano González Toro et bien d'autres. Alors voici en avant-première un petit extrait des répétitions. Du deuxième acte des Noces de Figaro de Mozart enregistré il y a quelques jours ici à Aix-en-Provence. Un spectacle donc à vivre en direct ce soir à 21h30 sur France Musique où nous sommes bien au soleil d'Aix-en-Provence à 8h25. C'est l'heure de notre nouvelle chronique, l'été des frères Jacques.
Et ben alors qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est beau la photographie ? Les souvenirs sur papier glacé électrise.
Eh bien oui, c'est la nouvelle rubrique de l'été, puisque je suis depuis mon plus jeune âge un fan des frères Jacques, ce mythique quatuor vocal de la chanson française. Les frères Jacques, vous savez, ce sont ces 4 frères, André et Georges Bellec, François Soubéran et Paul Touraine. Le groupe se forme en 1945, rejoint bientôt par le pianiste Pierre Philippe, remplacé en 1965 par Hubert de Gex. Tout le monde se souvient certainement de leurs costumes mythiques, ces collants bicolores noir, bleu, rose et jaune, ou noir et rouge, noir et vert, enfin bref, ils étaient de toutes les couleurs. Ultra moulant, ces costumes, imaginés par le peintre et affichiste Jean-Denis Malclès, qui faisait aussi les décors de leur spectacle. Les frères Jacques qui ont occupé le devant de la scène pendant près de 3 décennies, jusqu'en 1982, la date de leur dernier concert, triomphante en particulier dans les années 50-60. Ils ont tout chanté, des chansons traditionnelles, des chansons humoristiques, des chansons parodiques de musique classique, des chansons poétiques, notamment Prévert, Queneau, Boris Vian, Vian, des chansons grinçantes et satiriques, des chansons tristes et même un album entier de chansons paillardes. Et on en écoutera une d'ici fin juillet, c'est promis. Le génie des frères Jacques, c'est qu'ils ont renouvelé l'art de la chanson en la mettant en scène avec peu d'accessoires, des sortes de chorégraphies irrésistibles. Je voudrais juste vous livrer cette description absolument juste qu'en faisait Edgar Morin sous le pseudonyme d'Edmond Bérécy en 1958 dans France Observateur. Ce quatuor, je cite, mi-poète, mi-grotesque, a atteint sa perfection. À chaque chanson, il opère l'interprétation parfaite des divers éléments de son style. Le corps moulé dans un maillot bicolore dessine des figures géométriques animées, tandis que les mains gantées de blanc jouent leur propre ballet, cette danse arbitraire, perpétuelle et multiforme du corps et des mains, et pour ainsi dire un accompagnement visuel qui non seulement s'ajoute à l'accompagnement sonore du piano, mais le domine et dévore pratiquement le spectacle. On peut dire que les frères Jacques ont inventé un mode d'orchestration visuelle de la chanson. C'est absolument juste, je trouve. Alors comme on est en direct du Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence et qu'on va recevoir dans quelques instants le baryton Stéphane Degout, j'ai choisi pour commencer cette série une chanson assez humoristique, La Cantatrice. Une cantatrice qui ne sait pas, mais alors pas du tout chanter.
De Jean Le Seyu, Albert Villemette et Claude Normand, La Cantatrice.
Son père qui était un ambitieux lui avait dit:
ma fille, je veux qu'un jour tu chantes à l'opéra. Tu as une voix comme il n'y en a pas.
Si, si,
t'es une chanteuse comme il n'y en a plus.
Le plus beau c'est qu'elle avait couru. Elle prit alors des tas de leçons, mais elle chanta à sa façon. Elle chantait mal, elle chantait faux, sa voix avait des tas de défauts, mais par le chant étant continue, à tout prix, elle en voulait chanter.
Elle débuta l'opéra, ce soir-là, on s'en souviendra. Quand elle chanta la Traviata,
on crut que c'était Aïda. Mais quand elle chanta Aïda,
on crut que c'était la Traviata.
Le pire de tout, ce fut Verdier.
Elle gazouillait les variations qui étaient pas dans la partition. Et quand elle vous poussait un dos, c'était jamais celui du piano. Elle escalada du Debussy, assassina du Cucci.
On appelle
de quand elle chantait du Schumann, on aurait dit la fille Truman. Elle chanta pour la Saint-Médard, et plus 40 jours plus tard, elle chanta pour Saint-Barnabé.
Alors la caisse qui est tombée,
la météo lui dit basta, plus de manon le Traviata. Pitié pour les congés payés, chantez l'hiver, mais pas l'été.
Un matin qu'elle vocalisait, elle fit un coq.
Ouf, ça y est, son âme tout à coup scavala au beau milieu cavaleria. Elle trépassa par la porte
un contrefort
qui ne passa pas. Les locataires de la maison dirent en guise d'oraison. Elle chantait mal, elle chantait faux, c'était une dame bien comme il faut. Mais au fond, on est enchanté, on ne l'entendra plus,
on ne l'entendra plus,
non plus jamais.
Albert Vilmets, Jean Le Seyeux et Claude Normand, c'était la chanson La Cantatrice des Frères Jacques, la première de notre série estivale jusqu'à la fin du mois de juillet, tous les matins à 8h25. Merci d'être avec nous, il est 8h32 sur France Musique.
France Musique.
Et nous sommes avec nos deux premiers invités de l'été, le chef Sébastien Dossé, chef de l'ensemble Correspondance, qui présente ici au Festival d'Aix-en-Provence Combattimento, la théorie du signe noir. C'est jusqu'au 18 juillet, ce sera sur France Musique en direct mercredi, le 7. Et de l'autre côté, le baryton Stéphane Degout, qui chante dans Falstaff, le rôle de Ford, jusqu'au 13 juillet, ici aussi à Aix-en-Provence, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Daniele Rustoni, concert le 14 juillet également avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la baguette de Clément Maota-Katch et de Susanna Melki dans un programme Sibelius Sariao. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous avez écouté comme moi cette chanson des frères Jacques, La Cantatrice. Stéphane Degout, est-ce que ça vous inspire quelques souvenirs? Est-ce que vous avez été confronté dans votre carrière à des chanteuses ou des chanteurs qui ne savaient pas chanter?
J'ai pensé à quelques collègues là en étant.
Mais vous ne direz pas de nom, bien sûr. Est-ce que vous avez travaillé déjà ensemble tous les deux? Parce que Stéphane Degout, vous faites pas mal de musique baroque.
Oui, il y a 5 ans, la Saint-Mathieu avec Raphaël Pichon. Sébastien était au Continuo, oui. Et pas depuis. Et en tout cas, pas sous étendard Correspondance.
En tout cas, on va dire quelques mots pour commencer de Falstaff, des représentations. Je crois que ça plaît. Hein. On a lu quelques extraits de la presse ce matin. Vous faites l'unanimité, Stéphane Degout, dans le rôle de Ford. C'est la première fois que vous chantez de cet opéra?
Oui, c'est la première fois. Oui.
Ouais. Très différent des autres opéras de Verdi. Hein.
Je connais assez peu Verdi. J'ai chanté Rodrigue dans Don Carlos il y a 3 ans. Là, on est vraiment sur le côté comédie ou un peu farce même de Verdi. Et en italien, donc oui, effectivement, c'est très différent pour moi. Mais oui.
Par contre, vous avez un personnage qui n'est pas si comique que ça. Hein, qui est, c'est dans sa jalousie.
Voilà, c'est le mari jaloux, colérique, etc. Mais qui a un bon fond et qui est quand même attachant. Parce qu'à la fin, c'est lui qui pardonne à sa fille de lui avoir joué ce tour et qui propose à Falstaff de se joindre à la fête finale, etc.
Ce Falstaff est mis en scène par Barry Kosky, qui est vraiment un des grands noms du comique, notamment à Berlin, au Comischoper, qui l'a dirigé pendant quelques années. C'est aussi Falstaff, et c'est sa lecture, je crois, un hymne à l'hédonisme, hein, au plaisir de manger, de boire, de faire du sexe. Alors, comment est-ce que ça résonne pour vous en cette période de crise sanitaire qui n'était pas franchement versée dans l'hédonisme ces derniers mois?
Non, c'est sûr. C'est peut-être une façon un peu gentille, simple, brillante de dire voilà, cette crise est, espérons-le, derrière nous. On peut revenir, comme on le dit à la fin, tout ça n'était qu'une farce, tout ça n'était que... On va profiter de la vie, tout simplement. Et puis, alors, ce Falstaff était programmé bien avant que cette crise ait commencé, donc c'est un peu un hasard de chanter ça maintenant... en espérant que tout ça soit effectivement sur la fin. Mais il y a de toute façon, dans tout cet opéra, et puis dans la mise en scène de Barry aussi, un pied de nez à tout, à cette façon de se prendre au sérieux pour la moindre chose, de se dire à la fin, bon, en fait, c'est pas si compliqué, franchement, on pourrait juste sourire, respirer un bon coup et se faire plaisir. Et c'est une très belle philosophie assez générale, je trouve, pas seulement dans cette situation.
E sogno o realtà due ali enormi che sforzo e l'altra Matrofold, dormi, svegliati, su, ti destra, la tua moglie sgarra, e metti in mare a sé, la tua casa, il tuo lato. Tramato l'inganno
d'abbattre è truffato. E poi mi ragno che un marito geloso è insensato. Già dietro a me non infame canti stanno passando, mormora lo stello. Va! Matrimonio inferno, donna del mondo, nella non moglie abbiam fede i babbei. Affiderei la mia birra un tedesco. Tutto il mio desco a un olandese l'urco. La mia bottiglia l'ha guarita un turco. Mia moglie si stessa. Ora me ne solve quella brutta parola in cor mi torna.
Un extrait du grand air de Ford au deuxième acte de Falstaff, interprété par vous, Stéphane Degout, avec l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon sous la baguette de Daniele Rustioni. C'est un son que nous avons volé à la représentation du 3 juillet dernier, il y a deux jours. Falstaff qui sera donc à vivre en direct sur France Musique à 21h30 demain, mardi 6 juillet, avec l'ami Judith Chen. Même quand on ne comprend pas l'italien, on sent qu'il n'est pas content, hein, Ford, à ce moment-là. Mais
oui,
pas content du tout.
Très grosse crise de jalousie. Il arrive chez Falstaff en étant sûr de son coup, de lui tendre un piège, et il se rend compte que on lui a tendu un piège derrière, et enfin que sa femme et les autres femmes de la famille lui ont tendu ce piège-là. Donc il n'est pas content, non.
Voilà, il a bien raison. De l'autre côté, alors on l'a dit tout à l'heure, Falstaff, un spectacle qui redonne un petit peu le sourire en cette période de crise. C'est aussi un spectacle finalement, qui a pour but de rassurer, de redonner espoir, que vous nous avez préparé, concocté, Sébastien Dossé, Combattimento, la théorie du signe noir qui se joue ici à Aix-en-Provence jusqu'au 18 juillet. Alors c'est quoi? C'est une sorte de pasticcio, une sorte d'opéra baroque italien reconstitué.
C'est assez difficile de trouver un terme qui définisse très précisément ce qu'on a fait avec Sylvia, parce que je crois qu'il y a pas vraiment de ressemblance. Oui, il y a l'idée de passif parce que c'est une collection d'œuvres musicales. Oui, il y a l'idée d'opéra baroque italien parce qu'il y a notamment la musique des premiers opéras de Cavalli. Mais la forme qu'on a fabriquée, en définitive, je crois que j'ai du mal à lui trouver un terme très exact.
Peut-être un patchwork qu'on peut essayer.
Oui, on pourrait dire un patchwork. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on part d'une œuvre qui est le Combattimento de Monteverdi, qui lui-même n'a pas vraiment de registre, de case bien particulière, parce que c'est pas vraiment un opéra.
C'est pas un madrigal.
C'est pas un madrigal non plus, même s'il est édité au milieu d'un livre de madrigal. Donc, il y a l'idée d'une œuvre expérimentale, et peut-être que c'est ce qui définit le mieux ce qu'on a fait aussi.
C'est quoi cette théorie du signe noir?
La théorie du signe noir, c'est une théorie qui, à l'origine, vient du domaine des statistiques, qui définit un événement qui était absolument improbable, mais qui advient et dont la réalisation change le cours du monde.
Par exemple, le Covid, on pourrait dire que c'est la théorie du signe noir.
Alors, ça pourrait être un signe noir.
Vous connaissiez, vous, ça, Stéphane Degout, la théorie du signe noir?
J'avais entendu parler de ça, mais voilà, c'est plus clair maintenant.
Alors, c'est un spectacle qui est à la fois un message d'espoir, après la pluie, le beau temps, c'est un petit peu la dramaturgie de ce spectacle, mais c'est aussi un spectacle qui raconte un moment de l'histoire de la musique qui est cette théorie du signe noir, ce cataclysme, c'est Monteverdi, son Combattimento, c'est quoi? C'est le passage de la Renaissance au baroque, on pourrait le dire comme ça?
Ouais, en tout cas, c'est peut-être pas cette œuvre-là en particulier, mais c'est une époque de passage. C'est une époque où, venant du langage de la polyphonie, de l'idée de construire le son par la superposition des voix, on change complètement de système et on en vient à une expression beaucoup plus individuelle, beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus calquée sur les émotions du texte. Donc c'est vraiment un changement d'univers à ce moment-là, et c'est un univers dans lequel on se trouve toujours, donc ça a vraiment changé la face du monde.
Voilà un extrait de ce spectacle, Il Combattimento, la théorie du signe noir, un spectacle de l'ensemble Correspondance, mis en scène par Sylvia Costa ici à Aix-en-Provence, un spectacle que vous pourrez suivre sur France Musique mercredi soir, le 7 juillet. En direct. Alors là, c'était un extrait du prologue des Amours de Daphné et d'Apollon de Francesco Cavalli avec l'ensemble Correspondance. Je voudrais qu'on revienne quelques minutes à Falstaff. C'est un petit peu un match ce matin entre Falstaff et le Combattimento. Pas un match, un Combattimento, on va dire tout simplement. Mais non, il n'y a pas de combat. Falstaff, parce qu'on m'a dit, j'ai pas encore eu le temps de voir le spectacle, on m'a dit que au moment des entr'actes, il y avait des voix qui susurraient des noms de plats gastronomiques. Alors je sais que vous êtes un passionné de cuisine. cuisine. Moi aussi, d'ailleurs, je sais que vous êtes un grand gourmet, Stéphane Degout. Et alors, il paraît qu'ils ont une manière de susurrer le titre des plats qui est très érotique, d'une certaine manière.
Est-ce que vous... Oui, c'est Barry qui leur a demandé. C'est Antoinette et Rodolphe qui lisent ça. Après avoir couru sur la scène pendant 10 minutes, ils sont un peu essoufflés. Parce qu'ils les lisent en direct. Ça, c'est plutôt... Ça donne une autre dimension à la lecture. Et Barry leur a demandé de lire ça comme s'il lisait des romans érotiques, effectivement.
Est-ce que vous trouvez-vous qu'il y a une dimension érotique dans la cuisine ?
Oui, il peut, effectivement, oui, bien sûr.
Vous êtes un gourmet, vous aussi, Sébastien Dossé ?
Moi, je ne cuisine pas aussi bien que Stéphane, mais j'aime beaucoup manger.
C'est une légende, hein ? Enfin, c'est une légende. Non, je sais que c'est une vraie
avérée.
Légende, mais c'est une légende au sens légende vivante. Tous les gens qui viennent et qui vous connaissent ne parlent que de la cuisine de Stéphane Degout. Bah, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cuisine là, à Aix-en-Provence, en ce moment, entre deux représentations ?
Ah, moi, je fais le marché tous les matins et je mange beaucoup de poissons. Parce qu'il y a deux, trois poissonniers sur le marché de la place Richelme qui sont vraiment très bons. Donc j'en profite. Et les produits frais, des tomates de la place Richelme, c'est la petite Marie qui vend les tomates qui sont exceptionnelles. Il y a une autre dame qui s'appelle Nathalie, je crois, qui vend des oignons, des courgettes, des choses comme ça, qui sont de son jardin. Elle a les mains pleines de terre. C'est formidable. J'aime beaucoup ces gens-là.
Voilà, de la cuisine à retrouver, sinon en vrai, en tout cas en voix, lors de ce Falstaff ici à Aix-en-Provence, pendant encore quelques jours, à suivre demain soir sur France Musique. Vous allez participer aussi à un autre concert consacré à Kaya Saariao. Ça, ce sera le 14 juillet. Alors là, on est à l'opposé total de Verdi vocalement.
Oui, encore que ce soit une écriture aussi très vocale. C'est-à-dire, il y a de la mélodie dans son écriture, on n'est pas dans des recherches d'intervalles compliquées, on est dans quelque chose d'assez sensuel même dans le chant, et qui colle très bien à ce texte qui est un texte de, comment il s'appelait, Geoffrey Rudel, je crois, qui est un poète médiéval, d'amour courtois, mais en plus précisément l'amour de loin, d'ailleurs qui est le titre d'un de ses opéras, à Kaya Saariao. Et on est dans un texte qui est assez raffiné, en fait, et aussi dans un chant qui est assez raffiné.
Donc vous retrouvez dans ce texte-là le plaisir de la mélodie que vous avez par ailleurs aussi. Vous avez beaucoup chanté Debussy, je pense, par exemple.
Oui, absolument.
Ouais,
oui.
On retrouve cette finesse-là. Bon, on va vous écouter, tiens, dans la musique de Debussy. Une des trois mélodies, c'est L'échelonnement des haies moutonnent à l'infini. C'est un beau titre, ça.
Oui.
Moutonne à l'infini, mer clair dans le brouillard clair, qui sont les jeunes pères. Des arbres et des moulins sont légers sur le vertèbre, où vient s'ébattre et s'étendre l'agilité des poulains. Dans ce vague de dimanche, voici se jouer aussi de grandes brebis aussi douces que la laine blanche. Tout à l'heure des fêles longues roulées en volute de cloche comme des
La voix de Stéphane Degout avec Alain Planès au piano. C'était L'échelonnement des haies moutonnent à l'infini, extrait des trois mélodies de Claude Debussy. Pourquoi on écoute du Claude Debussy, vous allez me dire, puisqu'on parle de Verdi d'un côté et de Monteverdi de l'autre? Eh bien, parce qu'on parlait de la place du texte dans la mélodie, dans l'opéra. Et c'est cette question, Sébastien Dossé, qui est vraiment à l'œuvre. D'ailleurs, à l'époque de Monteverdi, c'est le moment de l'histoire de la musique où le texte reprend un petit peu le dessus. On cite souvent cette fameuse opposition prima la musica, prima les parole.
Alors, je dirais que non seulement c'était le cas à l'époque, mais c'est aussi un principe qui nous a animés avec Sylvia Costa pour construire ce spectacle. parce qu'on est parti du Combattimento avec l'idée que cette œuvre qui ne dure que 20 minutes, il doit se passer quelque chose ensuite. Il faut raconter la suite, non pas de façon narrative, non pas la suite de l'histoire de Tancrède après la mort de Clorinde, mais raconter un processus qui va suivre pour toute une communauté. Et ce qui était intéressant pour moi dans ce spectacle-là, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre des œuvres anciennes et puis de la création. Et le processus de création avec Sylvia, c'était que moi, je puisse trouver des textes qui vont raconter la dramaturgie qu'elle veut porter. Donc, je suis allé chercher beaucoup de textes dans toutes sortes d'œuvres, sacrées, profanes, des opéras, etc., pour coller les uns après les autres, qu'ils racontent l'histoire que veut porter Sylvia. Donc, je suis parti vraiment du même principe de donner la primauté au texte pour ce spectacle.
Alors, on a cité évidemment le Combattimento de Monteverdi, qu'on en peut entendre en intégralité dans le spectacle. Mais il n'y a pas que du Monteverdi. On a cité Cavalli, il y a plein d'autres compositeurs. Et il y en a un notamment que je ne connaissais absolument pas. Je ne vais pas retrouver son nom.
Masaino.
Là, à l'instant. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est qui celui-ci?
Mais Masaino, c'est un des rares compositeurs qui sort de ma zone de contrainte, parce que je me suis dit qu'il fallait que je montre de la musique des 10 ans qui ont suivi la publication du Combattimento, simplement pour jauger un peu l'effet que cette œuvre a produit sur ses contemporains. Mais pour autant, aussi parce que Monteverdi était un homme qui pratiquait à la fois la plus grande modernité, la plus grande recherche, la plus grande expérimentation, mais aussi le style ancien, le style de la Renaissance, le style de la polyphonie, j'ai voulu mettre en regard de ce style moderne trois œuvres qui sont un cycle de leçons de ténèbres de ce compositeur Masaino, donc publié à Rome en 1599 et qui est un sommet de polyphonie. Alors c'est un homme qui est peu connu mais qui a eu une très belle carrière, même si elle était très itinérante parce qu'il a dû beaucoup se déplacer pour des histoires de mœurs. Donc il a entre l'Italie, Vienne, Innsbruck, Prague, etc. Il a beaucoup bougé, mais c'est un je pense que c'est un compositeur de la Renaissance qui mérite vraiment une attention particulière.
Ça arrive souvent ça. Chez les compositeurs italiens, j'ai l'impression, les problèmes de mœurs. Il y a Stradella aussi, lui, il a passé son temps à fuir, j'ai l'impression. Non, Verdi, ça allait. Il était plutôt sérieux, Verdi, dans la vie, Stéphane Degout.
Ah, je ne connais pas vraiment sa vie, mais je crois que c'était quand même le bon papy.
Oui, voilà, c'est
bien
ça.
Bien bourgeois, bien.
On va bientôt se quitter avec un dernier extrait. Je voudrais qu'on écoute, Sébastien Dossier, un extrait de votre dernier disque consacré entre autres à la musique de Heinrich Schütz, dont on entend les dernières paroles du Christ en croix, Da Jesu an dem Kreuz stund. Il me fait 2 pouces. Je sais, c'est épouvantable quand je parle allemand. Pourquoi je voudrais qu'on écoute la musique de Schütz? Parce que ce serait un des exemples de la continuité peut-être du style italien dans le baroque allemand.
Oui, je pense que la veine de Monteverdi, elle a été tellement forte et prégnante sur toute l'Europe que on retrouve chez certains Français, bien sûr chez ses élèves, chez les gens qui ont suivi directement son enseignement, ce style qui les a tous marqués de façon très forte.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir, Stéphane Degout et Sébastien Dossé, ce matin. On va rappeler les 2 actualités principales. Combattimento, la théorie du cygne noir, c'est ici à Aix-en-Provence et c'est sur France Musique le 7 juillet en direct. Et puis Falstaff avec Stéphane Degout, Falstaff mise en scène par Barikowski, c'est jusqu'au 13 juillet et c'est à suivre demain soir à 21h30 ici à Aix-en-Provence. Et bien on se quitte comme prévu avec la musique de Heinrich Schütz.
Und dir sein Leichnam war.
Und dir sein Leichnam war.
le début de cette dernière parole du Christ en croix de Heinrich Schütz, interprétée par l'ensemble Correspondance. Et c'est ainsi que se referme cette émission. Je vous donne quand même la réponse du jeu du jour. C'était bien sûr le piano bastring, qui ne désigne pas l'accordéon, mais un piano naturellement ou volontairement désaccordé qu'on aime bien dans certains répertoires comme le ragtime ou le charleston. Restez à l'écoute dans quelques instants, l'été classique avec Jean-Baptiste Urbain qu'on partira retrouver à Paris. Merci à l'équipe qui m'accompagnait aujourd'hui. Amina à la technique, ici à France Bleu Provence. Merci à Taïsia Froidure à la réalisation. Et merci aussi, quand j'écris pas c'est terrible, on oublierait le nom de sa mère. Merci, mais comment elle s'appelle? Marion Guillemet, bon sang, mais il n'y a qu'elle. Merci à tous de m'accompagner ici à Aix-en-Provence. Je vous dis à demain.
Tous les jours à 17h, Grand Large, Evelyne Bloch-Dano, France Musique.
Cette semaine, plongeons dans la Vienne fin du siècle, avec un portrait en 5 épisodes de l'altiste Nathalie Bauer-Lechner, amie et confidente de Gustav Mahler. Grâce à elle, découvrons l'enfance, la jeunesse du compositeur et sa création musicale. Nathalie Bauer-Lechner, une femme moderne, originale, sincère et surtout incroyablement vivante.
Grand Large, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France. France Musique, partenaire du 71e Festival de Prades. Du 30 juillet au 13 août, le chef Pierre Bleuze apporte un nouveau souffle. Création d'un orchestre de chambre, du club, 35 jeunes musiciens en résidence, de Mozart à Brassens en passant par Schubert et Piazzolla. Un flot de nouveautés, des artistes de la scène internationale et la jeune génération. Rendez-vous dans des sites emblématiques de Prades et de la région Occitanie. À retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
France Musique. Vous allez là, do, ré.
Bienvenue sur France Musique dans nos rendez-vous de l'été qui tout d'un coup prennent des airs de liberté. À nous les spectacles, les festivals et les concerts, et quel bonheur de les partager avec vous. À ce propos, ne manquez pas tous les jours à midi l'agenda de l'été de Saskia Deville avec une programmation musicale qui suit les routes des festivals, comme par exemple celui d'Auvers-sur-Oise avec Laurence Equilbé et l'Insula Orchestra. Et voici Été classique par Jean-Baptiste Urbain. À réécouter sur francemusique.fr.